What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et au programme aujourd'hui, émotion, trash, poésie, réflexion, en un mot, du cinéma, ce qui tombe plutôt bien. On est ici avec Alexis. Salut Alexis.
Salut, salut.
Cathy, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain.
Bonjour.
On est tous ensemble pour parler des films En sortant de l'école, À nous le monde, Parthénope, Mickey 17 et À bicyclette. Alors on commence tout en douceur avec un programme de 13 courts-métrages animant 13 poèmes pour les petits. Ces courts-métrages en musique.
Oui, 13 très courts-métrages, 3 minutes chacun. J'en parlais avec Alexis Orantaine, j'ai trouvé le titre pauvre, un bien pauvre titre. En sortant de l'école, À nous le monde, c'est un titre qui aussi, entre la trivialité de sortir de l'école et puis le triomphalisme conquérant de À nous le monde, alors qu'en fait, on a vraiment 13 courts-métrages extrêmement poétiques au sens fort du terme, parce qu'il y a de la poésie et que cette poésie est relayée par la poésie de l'image, hein, c'est-à-dire de 13 manières très différentes, avec plusieurs, enfin, 13 esthétiques, c'est très esthétique, mais c'est 13 esthétiques différentes. Je vais pas tous les citer, mais alors en tout cas, le mot qui convient, c'est émerveillement. Moi, je suis arrivé, je me suis assis, ça a commencé, et ça a commencé par un premier émerveillement, et ça s'est succédé d'émerveillement en émerveillement. Je citerai rapidement Nature, sur un poème de Jean Tardieu, stop motion, avec des éléments récoltés dans la nature, ramassés dans la nature, des feuilles, des bouts de bois, des etc. Absolument extraordinaire. Sur un poème de Jean Tardieu. Chanson d'automne, poème de Paul Verlaine, un dessin très très dépouillé. Chaque feuille d'automne est un personnage qui salue en soulevant son chapeau avant de tomber. C'est quand même merveilleux. Le jardin perdu. On est sur un fond noir et blanc, c'est une grande ville, et un jardin a perdu son jardin. Oh. Et essaye de retrouver une place en ville pour se refaire jardin. Le jardin, lui, est en couleur et se détache sur le fond noir et blanc de la ville. Merveille. Les mouettes, poème d'André Chédid, dit par Louis Chédid. Donc, excusez du peu, stop motion, très sensible, très beau décor. On voit une petite fille, son grand-père, dans une barque. Et à la fin du film, on se rend compte que ça a été rêvé, imaginé par la même petite fille, mais devenue grande, qui est assise au bord de l'eau, là où elle allait avec son grand-père.
Parce que c'est ça, à chaque fois, le poème est lu, dit par... par quelqu'un.
Par quelqu'un, voilà. Et parfois largement adapté, hein, comme Conquistador, par exemple, de Paul Verlaine, raconte l'histoire d'une petite souris qui dort avec une petite fille. Et la petite souris, elle profite du sommeil de la petite fille pour aller à la conquête d'une pièce de monnaie pour mettre en lieu et place de la dent de la petite fille qui est tombée. Et donc, elle va par les mers, par les océans, cette petite souris. Poème de Paul Verlaine, Conquistador. Très, très bien mis en image. La mer, souvent, est réalisée, on dirait, la couette de la petite fille, du lit de la petite fille où elle dort. Bon, c'est magnifique. Après, je vous laisse peut-être tranquille. Les logements de Jean Tardieu, aussi.
Tu as été complètement émerveillé, en fait.
Ouais.
Et tu nous invites. On devrait peut-être tous y aller, d'ailleurs, non? C'est pas quelque chose.
Ah oui, oui. Puis ça prend.
Un programme de salut
ça,
public.
Ça prend 40 minutes. J'ai vraiment pas le temps de lire les 5 lignes du poème de Jean Tardieu.
Vas-y.
Allez. C'est un oiseau qui s'approche en pleurant. C'est un nuage qui parle en rêvant. Un rocher roule pour passer le temps. Un roseau s'admire dans le miroir d'un étang. Les arbres de la forêt sont là, comme des gens et des gens. Tout cela fait une foule qui attend, mais l'homme, absent, absent, absent. Il y a du niveau.
Merci.
Faut y aller.
En sortant de l'école, à nous le monde, donc c'est à voir à Aubenas. Et alors, je vous propose maintenant à peu près tout le contraire, si j'ai bien compris, du prochain film à l'affiche, celui du réalisateur primé de Parasite ou du transpersonnage qui revient avec une comédie de science-fiction politique bizarroïde.
Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ? Vous avez lu tout le formulaire.
Ouais. J'aurais dû tout lire.
Mickey, respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air.
Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi.
Tous les virus.
C'est bien.
Il y avait effectivement un virus inconnu dans l'air. Du genre mortel.
À demain!
Eh ben oui, à demain. Alors, mais non, à tout de suite pour nous, Alexis, t'es allé voir Mickey 17 de Bong Joon-ho.
Ouais, et beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations dans ce film. Déjà, moi, j'attendais un peu Bong Joon-ho au tournant, parce qu'après Parasite, qui a été énormément récompensé de statuettes, etc., compliqué de passer derrière ça. Donc, il s'est attaqué à un film hollywoodien cette fois-ci.
C'est voilà. Pour ça que je l'ai laissé en VF. Pour moi, ouais. Ça fait un peu blockbuster.
Exactement, mais c'est un blockbuster, hein, concrètement. Là, Warner distribue le film. Donc, on pouvait se poser la question du savoir quel rôle aura Bong Joon-ho lors de ce film-là. Et aussi, le film a été plusieurs fois décalé, donc on pouvait se poser la question de s'il y avait un désaccord entre le réalisateur et la Warner, etc. Donc, apparemment, à la post-production, ça a pris un peu plus du temps que prévu. Il y a aussi la grève des acteurs, etc., qui a fait retarder le film. Il y a eu plusieurs choses. Bon, il y a énormément de rumeurs, mais le film est sorti et le film divise. Donc déjà, c'est la question qui se pose. Il est adoubé par certaines critiques et d'autres pas du tout.
Ah oui, j'ai lu, je me suis régalé en lisant les critiques. Je me suis dit, waouh, dingue, ouais. Le grand écart.
Exactement, le grand écart.
Et alors, tu t'es fait un claquage, toi?
Alors, c'est pas son meilleur film. Non, mais c'est pas son meilleur film. Je pense que de toute façon, il va souffrir forcément de la comparaison avec Parasite, parce que de toute façon, ça restera un de ses plus grands films. S'il en fait un meilleur, c'est que vraiment, il va dans le panthéon des grands réalisateurs. S'il l'est pas déjà. Alors, Mickey 17, déjà, ça parle de quoi? Parce que c'est ça qui est compliqué. C'est en fait un mec qui est un peu rien du tout, voilà, sur Terre, hein, qui décide d'être remplaçable. Donc, c'est-à-dire que remplaçable, c'est très fort déjà comme mot. Ça parle déjà d'une question d'éthique. Donc, c'est-à-dire que il part en mission sur un vaisseau spatial à bord d'autres personnes, de scientifiques, etc., pour voir si il y a une vie ailleurs sur notre planète. Et donc, lui, en tant que remplaçable, c'est-à-dire que on garde sa mémoire, on prend son corps. Et on le fait mourir un nombre de fois incalculable pour faire des expériences sur la Terre là-bas, pour savoir si on peut y vivre, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, on va voir toutes ces vies jusqu'à 17 vies, 18 vies même, parce qu'en fait, il y a un petit couac dans le système, c'est-à-dire que le 17 survit, en sachant que on enfin en, en sachant que le, on croit que le donc le 17 meurt et du coup une copie du 18 va être faite après.
Tu nous en dis pas trop. Et là, genre,
non, ça fait partie du de l'histoire et en fait va y avoir tout un processus qui va se faire et le film va devenir déjanté à cause de ça. Voilà. Ou grâce à ça. Donc, ce film-là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ben, ça pose plein de questions. Ça pose une question de... Déjà, le film, pour moi, c'est un film sur l'humain, déjà, sur sa complexité. C'est-à-dire, on peut faire les plus horribles choses, mais en fait, dans les plus horribles choses, il y a l'humanité qui ressort. Alors, le pourquoi et le comment ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens dans la haute sphère qui peuvent faire des choses horribles, mais il y a forcément des gens qui vont se rebeller et qui vont faire de meilleures choses. Voilà.
Si seulement. Avis si aux amateurs.
Non, mais si, c'est vrai.
Si. Oui. Voilà. Et si je peux dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs messages dans ce film quand même. On parle de l'identité, parce que forcément, on fait des copies de soi-même. Et déjà, c'est de savoir, mais éthiquement, faire une copie de soi-même, qu'est-ce qui reste en fait. Alors, dans ce film-là, il reste la mémoire, mais ce qu'on inflige à la personne. Il y a cette mémoire de douleur qui reste ici. Et moi, ça m'a posé question. On fait pareil pour les animaux. C'est-à-dire que les expériences sur les rats, etc., c'est la même chose. Donc, il y a un parallèle qui se fait automatiquement. On a aussi, donc, le... Bah,
J'ai lu quelque part que c'était un peu antispéciste comme film.
C'est ça.
Et donc, c'est toi... D'accord. Ouais. OK. Tu l'as ressenti.
Ouais. On a le colonialisme, pardon, qui est très, très présent. Forcément, ouais. On va sur une autre planète. On va découvrir une autre vie sur Terre là-bas et on va en faire un petit peu ce qu'on veut, on va les maltraiter, etc. Et jusqu'où l'humain il peut aller pour ses propres intérêts, en fait, tout simplement.
Est-ce que ça colle pas trop à la réalité, en fait, la réalité de ce qui est envisagé, allons sur Mars, avec... Voilà, nous sommes des êtres...
On pourrait s'y projeter, hein, totalement. Ouais. De toute façon, c'est une... Alors, ce film, on peut pas le classer, parce que c'est une comédie noire, c'est un film d'action, c'est une science-fiction. Il a plein de facettes différentes, et je tiens à noter quand même la performance de Robert Pattinson, qui, lui, en fait, joue les deux personnages, donc Mickey 17 et Mickey 18, qui sont deux personnages pareils, mais relativement différents, parce qu'en fait, ce personnage va renaître... entre guillemets, au fur et à mesure, il avait perdu toute vitalité, et au fur et à mesure de l'histoire, plus il meurt, et plus il vit. Et en fait, c'est ça qui est très très intéressant, c'est entre guillemets, plus on a d'échecs, plus on apprend, et plus on vit. Et c'est la belle conclusion que je peux vous donner.
Oui, restons là-dessus. Merci Mickey 17, c'est à voir au navire et au regain du Teil, et le 12 avril, il sera à Tuaï, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas, je crois pas. Merci. Si je me fie au magazine Rolling Stone, on revient à la poésie. Je suis pas sûre, tu vas me dire, Cathy, avec le prochain film éclatant de poésie, comme il se dit, de Paolo Sorrentino.
È stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco.
Ah oui, un côté diabolique, paraît-il. Ça y est, on y est déjà dans la critique de donc Cathy qui est allée voir Parthenope de Paolo Sorrentino et on a entendu cette musique qui nous prend. Et alors j'ai là aussi, tu le disais, hein, la critique est complètement divisée. À la lecture des critiques, je me demandais, et je te pose la question, est-ce que la forme, l'esthétique, sachant que le film est coproduit aussi par la maison de production de la marque Saint-Laurent, et que Céleste Della Porta, l'actrice principale, est une mannequin, est-ce que le fond ne tient pas lieu de forme ?
Oui, c'est ce que les critiques ont reproché. Donc il a... Pardon, excuse-moi, je le laisse finir. C'est ce qui lui a été reproché, puisqu'il était en compétition officielle au Festival de Cannes, l'année dernière. Et effectivement, certains ont vu une belle pub pour...
Très longue.
Oui, très longue, une très longue pub. Et donc, sans vraiment, sans fond. Et c'est le film est esthétiquement magnifique. On est à Naples en été. C'est magnifiquement filmé. Bien sûr qu'on voit que Sorrentino, c'est sa ville et donc il l'aime et il le prouve. Mais ce serait quand même, et c'est réducteur pour moi, complètement réducteur que de se dire que c'est une pub pour une grande marque et que on fait voilà, c'est une belle femme et point. Donc pas du tout ça. Enfin, pour moi, ça n'est pas du tout ça. Donc Sorrentino, c'est pour juste rappeler un peu sa filmographie. Moi, je l'ai découvert d'ailleurs à Cannes aussi avec le film Il Divo, qui avait un côté très rock'n'roll sur un député. Alors j'ai oublié le nom, mais ça c'est pas bien. Mais un député italien. Voilà, il revenait sur. Il aime bien tout ce qui est biographie et autobiographie. Mais donc il y a La Grande Bellezza et puis plus proche de nous, Youth. Donc la jeunesse. Là, on parle de jeunesse. Effectivement, on est dans les années 50. On va à la rencontre de Parthénopée qui est étudiante et qui est extrêmement belle. Effectivement, c'est une actrice dont c'est le premier rôle, mais qui est sublime. Et elle profite de son été. Donc elle est dans une famille aisée. Hein. Là, les décors sont absolument somptueux, avec une maison magnifique qui surplombe la mer, piscine et voilà, tout ce qui va bien. Et elle vit entre son frère, qui est relativement fragile, où il y a des presque des prémices d'inceste. C'est un peu, enfin c'est un petit peu malaisant le rapport qu'elle a avec son frère, et ça va pas beaucoup plus loin. Donc là, on peut se poser quand même quelques questions. Et puis un ami à eux, un ami d'enfance qui est évidemment éperdument amoureux d'elle, et elle, ça l'intéresse pas en fait. Voilà, elle est sublime. Tous les regards des hommes, voire des femmes, sont tournés vers elle. Sauf que elle, c'est pas le truc. Et c'est ce qu'on lui renvoie en permanence en fait. Et elle recentre toujours un peu le débat sur le fait qu'elle souhaite être anthropologue. Que ça l'intéresse, pourquoi ça l'intéresse. En fait, elle a envie de faire des études. Alors, on est dans les années 50, hein, aussi. Il faut aussi recontextualiser un petit peu l'Italie. Bon, voilà, elle est magnifique. Forcément, elle peut être la femme d'eux et puis ne pas avoir spécialement son choix à elle, de vivre ce qu'elle a envie d'être, d'être indépendante, de choisir à qui elle ira ou pas, ou si elle a envie de faire l'amour ou pas de faire l'amour. Et donc, c'est vrai que le film va des fois dans des sortes d'extrêmes, mais parce qu'elle va dans l'extrême volontairement, puisqu'elle veut assumer ses choix à elle. Donc, on suit cette jeune femme, et elle va rencontrer... il est interprété par Gary Oldman, dans un hôtel. Elle va rencontrer ce vieux monsieur qui lui tient ce discours. C'est lui, tiens, il est un écrivain américain qu'elle reconnaît, avec qui elle échange, qui lui dit, bah, la beauté ouvre des portes, vous pouvez tout avoir sans même demander. Et en fait, voilà, le film se construit là-dessus, sur une esthétique et sur un lieu sublime comme Naples en été. C'est très poétique. Il y a une musique aussi qui accompagne le film, qu'on a entendu là dans la bande-annonce, merveilleusement. Enfin, pour moi, ça a été une vraie parenthèse, une vraie claque esthétique. Un fond profond quand même, parce que justement, on parle de femmes, on parle de choix, on parle de de ce qui nous importe maintenant quand même pas mal. Et c'est un film très féministe en soi.
Mais c'est ça qui paraît assez intéressant dans ce que tu dis, c'est la contradiction presque même entre le fond et la forme, c'est-à-dire que justement pervertir cette esthétique, en tout cas la femme, l'héroïne en l'occurrence n'est pas qu'esthétique, elle veut être autre chose. Alors et le film emprunte à l'esthétique, il y a une contradiction.
Mais il joue énormément, le réalisateur Sorrentino. C'est clair qu'on peut pas remettre en question ses qualités de réalisateur, de pouvoir montrer, poser la caméra comme il veut pour que ce soit le meilleur angle. Enfin voilà, on sent qu'il y a une maîtrise. Donc il a plus rien à prouver. Et c'est vrai que dans ce film, qui prend son temps, et je pense que c'est ça qui dérange aussi, c'est que le film prend son temps. Il y a des plans très lents sur des espaces, sur elle qui va nager. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, mais on s'en fout, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas envie de la voir nager pendant deux plombes. Mais ça va de pair avec un ensemble, en fait, avec le fait que, effectivement, on a envie de se poser sur cette femme, sur cette jeune femme qui a tout devant elle, en fait, mais qui peut très bien ne rien avoir parce qu'on est dans les années 50 en Italie, malgré sa famille aisée. Mais bon, on sent qu'il y a quand même des orientations qui peuvent se prendre très vite, et son vrai choix à elle de d'assumer autre chose, d'assumer avec qui elle va vivre, avec qui elle va être amoureuse de qui, quel métier elle va vouloir faire. Et c'est cette cette façon dont le film en fait oscille entre la facilité et la complexité aussi d'elle, de ses relations avec les autres, du regard des hommes, de la société, tout ce que ça en dit. Bon, voilà, je crois que c'est quand même un film qu'il faut découvrir sans a priori et se laisser porter.
En tous les cas, ça paraît ressembler beaucoup, à, d'une certaine manière, à La Grande Bellezza ou à Ius, quoi.
Oui, il prend son temps, bien sûr, c'est sa patte, effectivement. Mais derrière, ça dit quelque chose. Mais on peut être complètement hermétique, ce que je pourrais complètement comprendre. Moi, j'ai des collègues qui ont vu le film et qui se sont ennuyés. Parce qu'ils n'ont pas eu envie d'y voir quelque chose de particulier, quoi, si ce n'est effectivement une pub pour... Tu as dit qui, déjà ?
Saint-Laurent.
Saint-Laurent, voilà, exactement. Pub pour Saint-Laurent.
Eh ben...
c'est quand même beaucoup plus que ça.
Ouais. Faisons-nous notre propre avis. C'est à Auteuil et à Rosières et bientôt au Vence. Alors moi j'ai dit Parthénope.
Et bien sûr c'est la représentante, une sirène d'ailleurs, la sirène qui n'a pas pu avoir Ulysse, hein, c'est ça, hein, ouais, mettre Ulysse dans ses bras.
Non, c'est pas Circé. Elle l'a eu un petit peu. Mais les sirènes, effectivement, n'ont pas réussi.
Les sirènes n'ont pas réussi. Et c'est aussi, c'est la figure aussi emblématique mythologique de Naples.
Donc Auteuil à Rosières, bientôt au Vence, de décrypter tous les symboles au-delà même de Saint-Laurent avec ce film Parthénope. Pour le prochain film, Olivier, toi tu avais un vélo de retard, et bien ça y est.
On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie.
Non, j'ai trop mal, mec!
J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
Ah. On va pas s'arrêter là, allez, viens!
J'en peux plus.
C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment.
Allez, avance! Comment ça passe pas?
Et en même temps, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça peut servir? Un ami l'a outé.
Adriane, ich will keine Brösel auf meinem Sofa.
Je n'aime pas les miettes à la mosquée.
Elle me fout la trouille.
Sonst, Strafe.
Sinon, punition.
Et oui, et Sylvain me dit dans l'oreillette, on a déjà passé ça là, mais oui, mais c'est même la troisième fois, je crois, qu'on le passe. Bicyclette. Et donc, tu as voulu en reparler. Et d'ailleurs, Alexis également, il s'est dit, mais oui, si on en reparle, étant donné que tu as pu, vous avez invité au Vence le réalisateur, tu as des anecdotes à partager. Alors.
Oui, j'avais un vélo de retard, effectivement, je l'ai rattrapé, le vélo, et j'étais voir ce film, et effectivement, n'eût-il plus été à l'affiche que j'eus voulu en parler tout de même. Parce que, non, c'est une expérience extraordinaire. En plus, je veux dire, j'ai été un petit peu cueilli parce que je déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin au mélange de la réalité de la fiction. Et alors là, on est finalement en plein dedans. Bon, le pitch, la bande-annonce le fait. Hein. C'est un homme qui a perdu son fils dans des circonstances tragiques. Et avec un ami, il refait le voyage que le fils avait fait lui-même à vélo. Il part de l'Atlantique et va jusqu'à la mer Noire. Ça fait une belle distance hein, quand même. Hein. Et... D'abord, la première chose, c'est que ce film est très touchant. C'est-à-dire qu'il fait rire, mais aux larmes, et il attriste aux larmes également. Et on alterne entre les deux. Ils ont un humour fou. D'ailleurs, ils ont répété un petit numéro de clown, effectivement, à éventuellement présenter au cours de leur voyage, à des enfants, par exemple, ou même dans la rue. Donc, on rit, et puis, bon, évidemment, les circonstances et les raisons pour lesquelles ils effectuent ce voyage fait que nous avons des moments extrêmement touchants d'amitié, et puis aussi de deuil, de perte, etc. Donc, c'est extraordinaire, le moment d'amour aussi. Et rétrospectivement, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça m'avait fait autant d'effet et pourquoi ça avait culbuté ma réticence a priori au film qui mélange fiction et réalité, parce que c'est quand même joué, même si c'est improvisé, enfin, etc. Bon, et j'ai trouvé qu'en fait, ce film, j'avais envie, je pouvais le classer dans des grands genres. Il y a quelque chose de tragique. Le père m'a fait un peu penser à Édipe à Colonne, c'est la dernière pièce du cycle édipien de Sophocle, où Édipe est devenu aveugle et s'exile, et il est accompagné d'Antigone, sa fille, qui le dirige. Et là, on a aussi un duo d'un père largement aveuglé par la tristesse et d'un ami qui accepte de l'accompagner de ce périple extrêmement difficultueux, parce que si vous avez déjà fait du vélo, attention, ça fait des kilomètres hein, quand même, hein, et pas dans des conditions de voie verte. Hein, voilà. À côté de ça, on a quelque chose d'épique, si tant est que l'Odyssée soit une épopée, elle l'est un peu... Parce qu'on voit des nations, on voit des peuples, on entend des langues, enfin, etc. Donc il y a quelque chose d'épique, effectivement. Et à ce moment-là, le père fait un peu penser à Ulysse, qui multiplie les épreuves, avec souvent une aide, pour arriver à rentrer chez lui. Et lui, c'est un petit peu à retrouver son fils, quoi, d'une certaine manière. Il y a quelque chose du roman picaresque. Je me rappelle, on avait parlé de la naissance de l'amour, il y a ce micro. Ben là, le roman picaresque, hein, Picaro, c'est à la fois le futé et le misérable. Hein, c'est donc un peu les parents d'Eros. Hein. Bon, et c'est un petit peu le statut de ces personnages. Ils sont à la fois bien misérables hein, sur leur vélo, avec leur chargement, enfin, etc. Mais tellement futé, tellement adroit, tellement intelligent dans la façon... Parce qu'ils trouvent toujours à se coucher, ils trouvent toujours à se nourrir, même à boire une bière. Hein, enfin, voilà. Donc ça, c'est roman picaresque et puis évidemment comédie burlesque. Hein, rien à envier à Molière, à Scapin. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, du coup, on se retrouve face à un film qui réalise ce qu'on attend d'une œuvre d'art, c'est-à-dire que des expériences vécues de joie et de tristesse profondes sont rendus au spectateur à l'aide du recours au genre, qui est précisément le rôle du genre, la tragédie, l'épopée, le haïku. Le propre du genre, c'est de donner justement les moyens d'exprimer quelque chose, éventuellement pour s'en purifier, catharsis, hein, et puis de le communiquer à ceux qui ont envie de le savoir. Et donc ce film réalise ça à la perfection. Et c'est pour ça que je voulais en parler.
Alexis, est-ce que tu veux nous partager quelques-unes justement soit des anecdotes, soit ouais. de ce que tu as pu retirer en fait de la présence du réalisateur qui était là il y a quelques jours.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà à Bicyclette, il a pas eu de fonds CNC, donc il a pas été soutenu par le CNC, tout simplement. Il a eu du mal à avoir des distributeurs, c'est-à-dire que aucun distributeur, enfin, tous les distributeurs du milieu ont refusé, même les tout petits ont refusé le film.
Donc, et simplement une question bête. Quand on n'a pas l'appui du CNC, ça veut dire que les financements, en gros, tu sais à peu près combien coûte ce film et comment alors, ils font pour financer le film,
de mémoire, bon, enfin, il a coûté moins d'un million d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises.
Et ils trouvent l'argent où alors ?
Alors il m'a pas dit où exactement. Après, t'as des financements de la région, tu peux avoir des financements participatifs. Même de soi-même.
Même leur propre argent.
Exactement.
Et ou moins d'un million,
ça se fait, oui. Et bizarrement, là, il a plus de 300 000 entrées, si je dis pas de bêtises, et ça devient un des films les plus rentables de l'année.
Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien.
Donc, il était très content de dire ça. Et donc, oui, il a eu aucun distributeur. Et en fait, c'est en arrivant au festival d'Angoulême, au francophone d'Angoulême, où en fait, quand il a présenté son film, donc c'était sans distributeur, et c'est quand il a eu le prix que les distributeurs se sont dit « Ah, c'est peut-être intéressant quand même d'avoir le film ». Donc, tous ceux qui ont refusé...
Ad vitam,
exactement.
Ouais,
et tous ceux qui ont sorti, tous ceux qui ont refusé le film, s'en mordent un petit peu les doigts à l'heure d'aujourd'hui. Ils me racontaient, alors je ne sais plus quel distributeur, ou c'est un couple qui travaille en tant que distributeur, et le mari a dit non au film, ou l'inverse, et l'autre a dit mais qu'est-ce que tu viens de faire, pourquoi t'as dit non, tu m'as pas demandé, et apparemment ça a fait toute une histoire dans le couple.
Voilà. Qui n'est pas terminée,
exactement.
En tout cas l'histoire, le couple peut-être.
Ils feront peut-être un voyage à vélo pour réparer.
La question qui se posait, c'est le film, il est quand même... moi, j'ai posé la question, c'est est-ce que quand tu as revu le film, toi, est-ce que tu t'es senti concerné par le film ? C'est-à-dire, est-ce que tu as été touché par toi-même parce qu'il a fait le montage, etc.
Oui, parce qu'il faut redire ce qu'on n'a pas dit là, je pense, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est que le réalisateur, en fait, ça part de sa propre histoire.
C'est
le réalisateur qui est aussi l'acteur principal
Exactement.
Du film.
Exactement.
L'un des deux acteurs principaux.
Je lui ai demandé si lui, ça l'avait touché. Et il m'a dit, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, c'était un autre personnage. C'est-à-dire que j'ai été touché juste à un moment, c'est quand à un moment il rencontre un Normand. Et en fait, c'est à ce moment-là où le Normand dit mais il est vraiment très beau votre fils, voilà. Et en fait, c'est là où il s'est identifié à lui-même parce qu'il voit la photo de son fils. Et là, il se remet en larmes devant ça. Et l'autre question qui a été posée, c'est et après le film, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le deuil a été fait ? Est-ce que parce que ça se passe ça a fait un an ou deux ans à peu près ? Et comme il a dit, mais j'ai peur de laisser ce film-là en fait. En fait, de laisser ce film-là, c'est de laisser son fils partir. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant parce que lui a dit j'ai essayé de l'accompagner à plus de 100 avant-premières. Et je voulais pas le lâcher. Et là, il arrive sur sa fin de tournée. Et pour dire, hein, c'est plus les avant-premières. Il suivait encore le film après les séances Auvence. Donc il y avait encore quasiment 10 séances à faire. Et en fait, il a pas envie de le lâcher, mais il dit mais j'ai pas le choix parce que je suis obligé de lui laisser faire sa vie au film. Et puis c'est tout. Et c'est comme s'il lâchait son fils Yuri. Donc c'était hyper touchant. Et en fait, il s'avère que donc ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont improvisées, dont la scène avec la femme dans le Airbnb. Elle est jouée. C'est une actrice professionnelle.
Qui connaissait.
D'accord. Voilà.
Ce qu'on a entendu là, l'allemande,
c'est une actrice professionnelle qui connaissait, donc très très bien joué. Il faut savoir qu'au moment de la douche, par exemple, ils étaient quatre caméramans dans la salle de bain.
Par exemple,
ils nous expliquaient des petites choses comme ça. Et ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'improvisation où c'est des caméras embarquées cachées aussi dans la rue pour pas se faire attraper. Et voilà, c'est que des petites choses comme ça qu'il nous a raconté et c'était hyper intéressant. Et voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Pourrais en dire plein, mais...
Et oui, mais il est 12h44. Alors, merci beaucoup, Alexis, et puis merci, Olivier, de nous avoir partagé aussi ton enthousiasme pour ce film. Est-ce que vous voulez signaler un film, je sais pas, en particulier, on parlera sans doute la prochaine fois de Mikado.
Les Tontons Flingueurs qui est sorti en 1963.
Dire que c'est le printemps du documentaire, là, un petit peu partout, et que c'est le moment d'aller voir des documentaires en salle, enfin, continuez à aller en voir si vous n'y allez pas. Et que nous, la Maison de l'Image, nous avons la programmation de Ernest Cole ce soir à Tueil. J'ai le 20h30. Voilà.
Merci. Merci de cette
précision.
Oui, voilà. Et on termine, et toi, Auvence, le festival Terre et Racine se termine ce samedi, c'est
ce
ça ?
Ce samedi.
Avec Mikado.
Avec Mikado, justement.
Voilà, c'est pour ça, dont on parlera.
Ah, bah voilà, l'une on reparlera. Des...
Voilà. Okay. Très bientôt. Bah, merci tous les trois d'être venus, et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour Mikado et d'autres choses. Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà.